Si vous êtes comme nous des passionnés de voyages responsables, découvrez avec nous le Mexique en commençant par le Yucatán qui est un des berceaux de la culture maya. Voyager dans ce podcast, c'est véhiculer les valeurs d'un tourisme responsable et apprécier le patrimoine naturel, archéologique, culturel et gastronomique du Yucatán. Bonjour à toutes et tous, c'est Pedro et je vous donne la bienvenue à ce 12e épisode de notre podcast, de notre 12e saison de Yucatan21.fr podcast. Et je suis très content de pouvoir vous parler cette fois-ci encore une fois dans cet épisode qui est nommé « Quoi faire ce 12e semestre au Yucatan en 2023 ». Dans l'épisode précédent, nous avons parlé de comment voyager de façon responsable et on avait discuté à peu près de ce qu'on pouvait faire. Mais cet épisode, on voudrait bien vous mettre en évidence tout ou presque tout ce qu'il y a dans le Yucatán et qu'est-ce que vous pourrez faire. Donc, pour commencer, nous voudrions bien vous parler des saisons. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé un peu et on disait dans un moment que les mois de juillet et août, c'était bien des saisons hautes. Et on va commencer déjà les mois d'août, car le tourisme principal qui arrive chez nous, c'est le tourisme national, le tourisme du Mexique. Donc quand nous sommes en vacances, vous allez trouver plus de monde dans notre région du Yucatán, dans l'état du Yucatán. Mais en parlant du mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre aussi et les deux premières semaines de décembre, on peut les considérer comme une saison basse. C'est vrai que vous allez trouver plutôt des touristes internationaux, mais comme ce n'est pas encore le tourisme principal chez nous, vous pourrez avoir l'opportunité de trouver des endroits avec pas beaucoup de monde. Pas faire beaucoup la queue, car c'est vrai qu'on y fait la haute saison. En parlant de ce 12e semestre, en disant qu'on a déjà passé juillet, août, l'autre prochain saison haute, ça sera les deux dernières semaines de décembre, car il y a le tourisme national, le tourisme international qui vient pour la chaleur et bien sûr pour les vacances scolaires que nous avons. Donc, si vous êtes en train de planifier vos vacances, c'est vrai qu'il faut prendre comme ça. Je ne vais pas vous dire que ce n'est pas une bonne idée de venir en haute saison. Mais si vous venez en haute saison, il faut planifier, regarder les horaires où il y a moins de tourisme dans les sites archéologiques ou dans les cénotes, pour que tout se passe bien, mais surtout pour pouvoir aussi respecter la capacité de charge des destinations touristiques. Et comme ça, on va diminuer notre impact. À remarquer que nous sommes en train de promouvoir un tourisme responsable. C'est pour ça que c'est très très important de pouvoir parler de ces sondes. Eh bien, ensuite, on va parler des événements, car cette fin d'année et ce deuxième semestre qui nous sommes en train de passer, il y a certains événements à regarder. Tout d'abord, il y a les événements d'équinoxe qui se passent dans certains sites archéologiques. Nous savons que dans la culture maya, le système de repères du soleil ou des astres comme la lune et les étoiles, c'était très important. Et les équinoxes, c'est un événement qui n'est pas passé inaperçu dans la culture maya. C'est pour ça qu'ils ont créé des marqueurs du temps où vous pouvez trouver parfois un jeu d'ombre et de lumière ou bien des marqueurs du soleil dans certaines pyramides où vous pourrez observer ces événements. Donc si vous aimez bien ce type d'événements, il y a deux qui toutes les années le gouvernement permet de les regarder. que se dan le quinox de Sibishaltun, si tal que lo dije, que Nepal van de Mérida, que normalmente se fe tut sur la dat, tut près de la dat de l'équinoxe, c'est-à-dire le 21 septembre. Le site archéologique, il ouvre très tôt le matin, il ouvre vers 5h ou même avant pour que les visiteurs puissent arriver et regarder cet événement. Bien sûr, il faut régler les prix d'entrée à cette heure-ci, mais c'est un événement que vous pourrez voir. L'autre événement que vous pourrez aussi observer, c'est celui du site archéologique de Chichen Itza, un des sites archéologiques qui sont très 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 connus. Sur le castillo de Kukulkan, il y a un spectacle d'hommes de lumière naturelle que, quand ils sont en train de se coucher le soleil, dans l'après-midi, vous pouvez trouver comment il va se former sur la pyramide et le corps d'un serpent, que c'est la serpent à plumes, que c'est Kukulkan. Cet événement, l'avantage, c'est que on peut l'observer quelques jours avant le 21 septembre et quelques jours un peu après le 21 septembre. Donc, c'est pas très très nécessaire d'arriver le 21 septembre, car c'est vrai que c'est la date qu'il y a plus de tourisme, mais car ils viennent arriver à voir cet événement. Mais si vous arrivez quelques jours avant ou après dans l'après-midi, c'est un événement que aussi vous pourrez observer sans aucun souci. En parlant de l'autre côté des autres événements dans le ciel, il y a aussi le samedi 14 octobre un événement très important qui est lié à un éclipse annulaire ou bien un éclipse d'anneau de feu, au cercle de feu, qui chaque année il se passe dans différentes parties de la planète. Mais ce 14 octobre, il va passer au Yucatan. Donc, et ça, c'est quelque chose de très remarquable, car ça faisait depuis les années 1991 qu'on n'avait pas cet événement dans la région du Yucatan. Donc, si vous êtes en train aussi de planifier votre vacances, si vous aimez bien ce type de cet événement naturel astronomique, c'est une bonne date à vous mettre sur votre agenda pour pouvoir planifier votre voyage ce jour-là. Et dans le Yucatan 21, nous sommes en train d'organiser un voyage responsable pour cet événement, où bien sûr on va essayer de regarder cet événement, en disant, je dis essayer, car parfois il y a les nuages et tout ça qui arrive, mais le but de cet voyage, c'est de pouvoir aller dans un site archéologique, et pouvoir l'observer sur place et aussi le complémenter avec des activités comme la visite d'un artisan, la visite d'une communauté maya et aussi la visite d'un cénote. Donc bon, si vous êtes intéressé sur cet voyage responsable, n'hésitez pas à nous contacter. Donc en continuant les événements, tout près de l'octobre, il y a la fête des morts. La fête des morts, c'est un événement très important dans notre culture, que dans l'organisation de la promotion de destination touristique que c'est le Yucatan, les maires et les mairies ont organisé depuis quelques années quelques événements folkloriques qui sont liés à cet événement de la fête des morts. Donc normalement il se passe la dernière semaine d'octobre. Normalement il y a tous ces événements qui se passent, il y a des expositions des hôtels, il y a des défilés on va dire des gens qui se déguisent de la Katrina ou bien de les âmes du Yucatan, mais aussi il y a de quelques coopératives aussi qui vous montrent quelque chose plus, on va dire, au cœur de cette tradition, qui vous invite aussi à passer toute une journée en regardant ou en écoutant aussi les traditions que nous pratiquons encore. C'est une tradition encore très très vivante. Donc la fête des morts aussi, c'est bon, les événements c'est la fin d'octobre, mais cet événement au Yucatan c'est tout le mois de novembre. Donc si vous êtes sur la région en novembre, il faudra juste savoir où se diriger pour pouvoir vivre cet événement. Et n'hésitez pas aussi à nous contacter. pour pouvoir vous partager les contacts ou bien vous organiser une visite au cœur de cette tradition. Des autres événements culturels qui existent dans l'année, il y a la Nuit Blanche, que c'est une nuit très très remplie des événements culturels. Et cet événement se passe notamment à Mérida. Nous n'avons pas encore la date précise, car normalement la mairie le sort quelques mois avant. Donc, mais normalement, se passe pendant le mois, la première semaine de décembre. Donc, ça, c'est un événement aussi qu'on peut regarder en fin décembre. Il y a des concerts, il y a des spectacles artistiques, et il y a des artisans aussi qui sont sur les rues de Mérida. Donc, c'est vraiment, vraiment un événement très, très, très important que chaque année commence à se remarquer en plus, en plus. Donc, et pour terminer la partie des événements, il y a aussi, bien sûr, Noël, la fin d'année. Bon, nous avons des traditions très, très... Si vous fêtez Noël et si vous fêtez la fin d'année, nous avons des traditions dans la région où les restaurants organisent des dîners spéciaux. Et pour ces deux événements, ou bien aussi, il y a la possibilité de passer cette... on va dire ces jours au corps des familles locales. Donc si vous êtes aussi intéressé, aussi n'hésitez pas à nous contacter. Il a l'avantage, c'est vrai que nous avons des hivers qui sont assez chauds, on va dire des températures minimum de 21 degrés, extraordinaire 19-18 degrés pendant cette période, et pendant la nuit, on va dire, et le soir et la nuit, et le matin, la journée, les températures peuvent aller jusqu'à les 30 degrés, 34 degrés. Donc, comme on voit, notre hiver, c'est pas très, très, très froid. Donc, aussi, si vous aimez bien la chaleur, c'est un bon moment pour visiter notre région. Donc, eh bien, c'est ça, c'est tout ce qui concerne les événements. Et maintenant, nous allons parler des sites archéologiques que nous avons dans la région du Yucatan. La région du Yucatan, c'est très bien connu car c'est une région qui fait partie du monde maya. Le monde maya, c'est un monde qui occupe toute la péninsule du Yucatan, qui occupe Guatemala, Belize, un peu les états du Mexique, de Tabasco, Chiapas, et aussi dans l'Amérique centrale, on a déjà dit Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize aussi, un parti. Donc toute cette région se considère le monde maya et le Yucatan fait partie de ce monde maya. Donc dans notre région, dans l'état de Yucatan, je ne parle pas de la péninsule, je parle de l'état de Yucatan, et nous avons environ 15 sites archéologiques. C'est vrai que surtout, il se parle beaucoup de Chichen Itza, car c'est ce qui est le plus promu dans le monde entier, mais plus que Chichen Itza, nous avons 15 qui sont ouverts au public. Donc pour ça, nous avons, par rapport à ça, nous avons Chichen Itza, nous avons Ekbalam, nous avons Yashuna, nous avons Ake, nous avons Ishkambo, nous avons Tibishaltun, nous avons Mayapam, Akanke, c'est notre site archéologique, Chakmultun, Labna, Sajil, Islapak, Kaba, Oshmal et Oshkintok. Toutes ces dernières, ils font partie d'une route touristique qui s'appelle la Ruta Puk, que ce sont aussi des sites archéologiques mayas. Donc, si vous aimez bien les civilisations anciennes, c'est des sites qu'il ne faut pas rater. Car tous les sites, ils ont des choses particulières, des choses différentes, ils ne vont pas se répéter. Donc, il y a toujours l'expression, on voit que des pierres, mais non, dans les sites archéologiques qui sont ouverts au public ici, vous allez voir que tous, ils ont quelque chose de particulier qui vont vous surprendre. Donc, nous avons les sites archéologiques, mais aussi tous les sites archéologiques sont toujours à côté des endroits naturels qu'ils puissent fonctionner comme des compléments pour votre voyage. Par exemple, nous avons des cénotes. Les cénotes sont plutôt au nord et au centre de l'état de Yucatan. Ce sont des grottes avec de l'eau. C'est tout un réseau de rivières souterraines où se manifeste dans les grottes. Nous avons des cénotes à ciel ouvert, des cénotes fermées, demi-ouvertes. Donc tout ça aussi sont tout près des sites archéologiques. Pas de tous, je vous dis, les sites archéologiques sont plutôt au nord et au centre du Yucatan, car là, le sud, c'est très haut. Et là-bas, il n'y a pas de cénotes. Donc, mais dans le centre et nord du Yucatan, c'est de bonnes idées pour complémenter votre visite archéologique. Et de l'autre côté aussi, nous avons des plages, en parlant de nature. Et les plages, ce que moi j'aime bien de nos plages, c'est qu'ils ne sont pas encore, heureusement, des plages très, très, très touristiques. Ils ne sont pas faites à l'américaine. Donc à ce moment-là, ce sont des plages qui existent parfois depuis l'époque de la colonie, qui gardent cette identité, car aussi ils datent de l'époque préhispanique aussi. Et à ce moment-là, vous y arriverez, les plages sont publiques, vous allez trouver encore des restaurants locaux qui vous proposent des plats très intéressants, en parlant de plats traditionnels. Il y a la choix, donc si vous aimez bien les produits de mer et frais, car c'est vraiment des pêcheurs locaux qui amènent les produits de mer dans les restaurants, donc parfois c'est le même pêcheur qui a son propre restaurant. On vous conseille de ne pas rater. Dans ce type de plage, nous avons Chuburna, nous avons Sisal, nous avons Celestun, nous avons Progreso, nous avons San Crisanto, nous avons Silan del Bravo, Las Coloradas et Ixtampu. Les deux dernières sont encore plus connues car il y a des salins, et dans les salins, il y a un phénomène où vous allez voir l'or rose, et dans les deux, vous pourrez les observer. Et pour ça, pour savoir quelle plage s'adapte mieux à votre choix, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour savoir plus de ce type de plage ou de site archéologique ici. Donc, bien, si on continue sur des choses à faire au Yucatan, il y a aussi pas mal. Et se développe en plus ce que nous appelons le tourisme pour l'immersion culturelle. Donc on avait parlé que si vous aimez bien des civilisations anciennes, il ne faut pas rater les sites archéologiques chez nous, mais il faut dire que les civilisations anciennes comme les Mayas, aujourd'hui c'est encore une civilisation et une culture très vivante. Nous avons les descendants de la culture maya qui aujourd'hui, en plus grâce à cette ouverture et la mise en valeur de la culture locale, et il y a des populations qui commencent à s'organiser, qui commencent à vous proposer des activités comme manger chez l'habitant, ou faire des ateliers de cuisine, ou faire des immersions chez un boulanger, un agriculteur, un apiculteur, un méliponiculteur. Et dans les villages qui s'organisent en plus de ce type de activités, on peut parler de Tequit, on peut parler de Santa Elena, d'Abala, de Sinanche, de Izamal où il y a des artisans, de Muna aussi qui a des artisans très très importants, et puis il y a beaucoup plus de coopératives qui commencent à s'organiser. Et c'est aussi, si vous êtes intéressé, je serai répétitif, mais n'hésitez pas à nous contacter car en mélangeant ce type des activités, les sites archéologiques, les cénotes, les plages, ou bien des activités d'immersion culturelle, nous pouvons créer un impact positif dans le tourisme. Cet partage des locaux ou des touristes en même temps, mais aussi en préservant la nature, les sites archéologiques, c'est des choses, des événements que le tourisme permet quand nous voyageons, le tourisme responsable. Donc c'est pour ça que nous vous encourageons aussi de prendre ce type des activités et mélanger vos journées pour pouvoir créer cet impact positif d'un côté et de l'autre. Eh bien, lions à ça, de l'immersion culturelle aussi, nous avons aussi des villes coloniales à visiter dans notre région, des villes coloniales qui, grâce à cet métissage qu'il y a de la parte español, de la parte maya, o sea, de mexicano, y son creé de vir colonial así interesante, que guardan identidad tres importantes, sí. Entonces, yo pienso que la ville que la plus conocida por el momento es la ville de Mérida, que es la ville capital, es una ville en plan de desarrollo que propone siempre desarrollo cultural, una arquitectura muy precisa, colonial, donc de musées. Il y a pas mal de musées de l'histoire de Mérida, de l'art contemporain, de l'art des artisanats aussi, mais aussi des mayas. Donc Mérida, c'est un bon endroit, un bon pour pouvoir commencer à connaître en plus de la ville coloniale, de la vie maya aussi, grâce à ces musées, mais aussi de vivre vivre de la quotidianité. C'est une ville qui s'est pas faite pour le tourisme, c'est une ville qui garde son identité. En effet, le tourisme, c'est pas son activité principale. Et c'est ça qui devient intéressant en Mérida, car il y a une identité à soi-même, la ville de Mérida, et aussi en plan développement. Donc, de l'autre côté aussi, le ministère du Tourisme national, il a créé un label qui s'appelle les villages magiques, et ce sont des villages qui gardent son identité, sa culture, son architecture, son histoire, et toutes les villes qui ont tout ce type de paramètres, ils vont avoir ce label. Et au Yucatan, nous avons sept. Donc, parmi cette sept, il y a les villages de Spita, de villes et villages de Spita, Motul, Tekash, Sisal, Mani, Izamal et Valladolid. Et tous, ils vous proposent des activités culturelles, une architecture très particulière. Donc, si vous êtes en train de voyager en voiture chez nous, ou bien en bus aussi, ce sont des endroits à pas rater non plus. Eh bien, en arrivant presque à la fin, nous allons parler aussi que dans le Yucatan, ou bien dans le Mexique, mais aussi particulièrement dans le Yucatan, nous avons une gastronomie très très importante, que c'est d'origine maya, qui est mélangée avec les techniques espagnoles, et car nous avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts avec l'Europe, les îles Caraïbes, nous avons cette mélange assez particulière. C'est pour ça que si vous aimez bien la gastronomie, aujourd'hui, en plus, ils commencent à se proposer des ateliers de cuisine, des ateliers de cuisine, et surtout dans le Yucatan 21, nous proposons des ateliers de cuisine au cœur des gens, des villages qui savent les bases de cette cuisine qui aujourd'hui se propose dans les grands restaurants. Donc, ici, c'est vraiment une expérience. Très très important culinaire qui vous permet de connaître un marché traditionnel, qui vous permet aussi de goûter, de savoir, le savoir-faire, de connaître le savoir-faire local de nos familles. Donc aujourd'hui au Yucatan, en plus, ce type d'ateliers et surtout au corps des coopératives mayas ou des familles mayas, maintenant c'est des ateliers qui se cherchent et qui commencent à se proposer. Soit maintenant parlons du deuxième semestre, il y a un plat traditionnel pour les fêtes de mort qui s'appelle le pip, qui se fait dans un four souterrain, mais aussi on peut avoir des autres propositions comme l'année dernière que nous avons eu un couple d'Espagnols qui ont fait un plat traditionnel qui se fait que le dimanche chez une famille qui vraiment il fait ça pour vivre. Donc à ce moment-là, on a connu bien cette technique pour cuisiner cette plaque qui s'appelle la cochinita pibil. Des ingrédients, donc nous avons des ingrédients comme le maïs, courgettes, tomates, piment, haricots noirs, des fruits et des légumes. À la fin de cette année, nous sommes à la fin de la saison des mangues, plus ou moins environ le mois de septembre. Et de la pitaya que vous le connaissez, ou les gens le connaissent parfois comme les fruits des dragons aussi. Ça, c'est la fin de la session. Et vraiment, vraiment, à la fin de l'année, ça commence les saisons des agrumes. Des agrumes comme le citron vert, l'orange, le pamplemousse, que ce sont des oranges que vous direz, ah, j'ai des oranges chez moi. Mais ce sont des oranges locales. En visitant les marchés, vous allez voir qu'il y a des particularités différentes et même parfois des goûts. Et pourquoi pas les manger à notre façon, les fruits avec les piments. Donc ça, c'est aussi des choses à goûter, comme vous dites, à faire, et comme vous dites ici. Et très bien. Et pour finir cet épisode, on ne voudrait pas vous dire au revoir sans aussi remarquer que c'est toujours bien d'avoir une assistance quand vous avez la planification de votre voyage, surtout maintenant qu'il y a les fake news et qu'il y a un peu trop d'informations sur la web. Et dans ces informations, il y a aussi pas mal de satrapouilles. Si on vous encourage à contacter les agences locales et aussi à des guides francophones. C'est vrai que nous ne sommes pas beaucoup, moi je suis guide francophone, donc, mais c'est bien de pouvoir les contacter, ou un assistant de voyage aussi, pour pouvoir, en agence locale ou de locaux, pour pouvoir avoir une perspective réelle, une approche réelle de la vérité de qu'est-ce que vous pourrez attendre pendant votre voyage. On a déjà commencé avec cet épisode, mais si vous avez besoin plus d'assistance, si vous avez plus de questions ou bien de contacter un guide francophone, n'hésitez pas à nous contacter au yucatan21.fr. Nous avons nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, avec yucatan@yucatan.fr. Vous allez aussi trouver notre compte sur que c'est yucatan21, que c'est l'espagnol. Dans les deux, vous pourrez nous contacter. Mais en français, on va vous répondre tout de suite en français sur nos réseaux sociaux en français, yucatan21.fr. Donc, on a fini cet épisode. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, s'il vous plaît. Et je vous remercie beaucoup d'avoir arrivé à la fin de cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram et Facebook comme yucatan21.fr.